I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Rêvé par Binge Audio.
La vague verte dont les médias ont tant parlé n'a pas touché uniquement les grandes villes comme Lyon, Grenoble ou Strasbourg. Certaines villes de taille moyenne ont aussi porté un ou une maire écolo à leur tête, et ils et elles emmenaient parfois des listes un peu différentes, réussissant à unir plusieurs sensibilités de gauche derrière un ou une même candidate. C'est le cas pour Auray, une petite ville du sud du Morbihan, en Bretagne. Fin juin dernier, la nouvelle maire EELV, Claire Masson, a remporté 42,61% des voix à l'issue du deuxième tour des élections retardées en raison de la pandémie. C'est un profil bien différent de celui du maire de Lyon, Grégory Doucet, dont on a parlé dans le dernier épisode. Premièrement, il s'agit d'une femme, l'une des 4800 à diriger une liste sur 21 000 déposées lors des élections de 2020. Ensuite, elle est la seule à être encartée parmi ses colistiers, et ce depuis longtemps. À 51 ans, cela fait 20 ans que l'enseignante en mathématiques a sa carte au Parti écologiste. Et puis enfin, contrairement à l'édile de Lyon, cette ex-adjointe à l'environnement pour la ville d'Auray n'est pas novice en politique. Bref, un profil de maire verte qui m'a donné envie de voir ce qu'un programme écolo changeait à l'échelle d'une petite ville précédemment dirigée par la droite. Très applaudie, la victoire de la liste Auray-Ville citoyenne le 28 juin 2020 marquait aussi un changement d'étiquette politique et un changement d'atmosphère à l'hôtel de ville. Le maire précédent, Joseph Rochelle, dirigeait une équipe plutôt étiquetée d'hiver droite et avait pris la suite d'un édile de centre-droit après des conflits internes qui avaient secoué les équipes municipales successives. Au hasard d'une rencontre entre les rayons d'une librairie joliment appelée Vent de Soleil, j'ai pu constater que certains commerçants, comme Alain Lamar, le gérant, étaient ravis de cette alternance.
Je préfère une jeune équipe de gens relativement dynamiques et peut-être qui promettent un nouveau souffle pour cette commune, plutôt que... J'ai envie de dire, auparavant, il s'agissait de gérantes, en gros, de notables. Moi, ce que je dis à Claire Masson, c'est qu'Auray est une ville où l'on peut effectivement tenter des choses parce que c'est la bonne mesure. Une des qualités de cette municipalité, c'est qu'elle est diverse. C'est un des rares endroits de France où on a réussi à faire l'union de la gauche, de toute la gauche. C'est bien qu'on ne soit pas dans le « en même temps », qu'on soit dans le projet, dans la volonté, dans... J'avais l'impression qu'auparavant, il s'agissait de guerre de monarques. Là, j'ai l'impression que Claire, mais parce que je la connais un tout petit peu, elle est plus dans l'échange et le débat.
Dans le fond, on est face un petit peu à une situation où, je vais caricaturer, mais il y a un peu deux sortes de citoyens maintenant.
Vanessa Jérôme, sociologue spécialiste de l'écologie politique en France, qu'on a déjà entendu dans l'épisode précédent.
Il y a ceux qui ont complètement délaissé tout espoir dans le fait que les politiques puissent changer quoi que ce soit à leur vie quotidienne. Et on sait très bien de quelle manière ça alimente des formes d'abstentionnisme structurel, régulier, etc. Et puis il y a ceux qui, d'une certaine manière, ont envie d'y croire encore, ou y croire encore. Et du coup, dans la tête de ceux-là, dans l'esprit de ceux-là, il y a beaucoup cette demande de, alors on dit démocratie participative, mais en tout cas de renouvellement, à la fois dans les profils des élus et surtout peut-être dans leur manière de faire. Moi, ce qui me frappe à Auray et dans d'autres communes, c'est l'engouement pour les listes, alors qu'on a appelées citoyennes, même si c'est compliqué, il faudrait revenir sur ce label, hein, parce que souvent on l'entend comme des listes de gens qui ne sont pas encartés dans les partis politiques, et ce n'est pas toujours le cas. L'idée de la liste citoyenne, c'est plutôt de refaire de la politique avec les citoyens des communes et de transformer les manières trop dirigistes, trop, j'allais dire confinées, d'en faire, c'est-à-dire au sens où bon, voilà, on est au conseil municipal ou on n'y est pas. Le conseil municipal, on peut y assister dans le public, mais on n'a rien le droit d'y dire. Et tous les mécanismes ou les outils de démocratie participative qui ont été mis en place depuis quelques années maintenant, comme les conseils de quartier, etc., le moins qu'on puisse dire, c'est que, disons que toutes les attentes n'ont pas été satisfaites avec ces outils. Et donc, du coup, il y a effectivement cette volonté de faire de la politique autrement et de réassocier les gens.
Qui dit concertation dit forcément débat et désaccord. Si certains commerçants comme Alain Lamarre se réjouissent de l'arrivée d'une nouvelle municipalité plus à l'écoute de la population alréenne, d'autres se montrent un peu plus réservés. C'est le cas de Serge Parot, gérant de la quincaillerie du Belzic située en centre-ville d'Auray. Il est aussi le président de la Fédération des commerçants d'Auray et il m'a parlé de l'idée portée par la nouvelle équipe municipale de consulter la population en vue d'une éventuelle piétonnisation du centre-ville.
S'il y a une réflexion sur, la voiture aujourd'hui, malheureusement, elle est incontournable. Moi, j'ai un petit parking de 6 places, il sert pour les gens du quartier. Là, il y a un artisan qui est en train d'intervenir dans un logement, je lui dis, il faut se garer sur mon parking, sinon ça va gêner tout le monde. C'est juste du bon sens. La concertation citoyenne, c'est bien, mais on va retomber sur peut-être une forme d'intégrisme du centre-ville. Moi, je veux mon centre-ville piéton. Ok. Sauf que quand après il n'y a plus de commerce et plus rien, on dit, c'est dommage, je suis obligé de prendre ma voiture pour aller en zone. Donc c'est un tout, c'est de la concertation, c'est une réflexion d'ensemble. Il n'y a pas de jugement en disant c'est bien de dire on va faire de l'écologie, simplement il faut aller au bout de la démarche. Dire voilà, on met des panneaux solaires, dans 30 ans ça m'appartient, comment je fais la dépollution? C'est comme l'amiante, ça va me coûter une fortune. Je veux bien la démarche, mais je veux bien qu'on aille jusqu'au bout et qu'on me dise ok, c'est bien de faire ça, maintenant il y a tout le processus jusqu'au bout.
Du coup, j'ai demandé à Claire Masson, la maire, ce qu'elle pensait de ces critiques, et tout particulièrement au sujet de la piétonnisation.
Alors en fait, quand j'étais élue entre 2001 et 2008, on avait déjà modifié la circulation dans deux endroits. À Saint-Goustan, on avait rendu une partie des quais piétons, et c'est resté depuis 2001, donc je pense que c'était une réussite. Et en centre-ville, on avait essayé de mettre le parvis devant l'église piéton et le parvis derrière la mairie. Donc celui derrière la mairie est toujours piéton, celui devant l'église a été changé, et finalement, moi j'ai entendu autant de commerçants regretter que ça ait changé, que de commerçants contents que ça ait changé. Donc je pense que c'est très partagé. Par contre, au niveau de la population, il y a un vrai danger sur les petites rues pavées qui n'ont pas de trottoir et qui sont des rues qu'on aurait pu rendre piétonnes effectivement à terme. Donc je pense qu'on va faire des tests et qu'on va essayer de proposer des choses sur des périodes de l'année avec une réflexion, avec aussi un questionnaire, une concertation pour mener au mieux, pas une piétonnisation, mais une adaptation des différentes rues en fait, en fonction de leurs possibilités et du rôle qu'elles doivent avoir dans la ville.
Et comment on fait justement? Parce que je pense que c'est plus peut-être une peur pas forcément fondée, ou en tout cas quelque chose qu'on peut avoir à l'échelle nationale, qui est de dire, les verts arrivent, comment est-ce qu'on concilie une écologie pour en fait pas juste quelques-uns, quelques-unes, mais en fait pour l'ensemble de la population? Est-ce que vous avez beaucoup ça en tête? Est-ce que c'est quelque chose donc que vous craignez peut-être un peu quand vous avez des retours des habitants, des habitantes et des autres personnes de la ville?
Oui, on fait très attention à ça. On est vraiment au service de toute la population. Et pour nous, l'économie locale est très, très importante. Moi, je fais mes courses uniquement en cœur de ville. Auray, c'est une ville magnifique avec beaucoup de commerces. On y tient tous beaucoup. Et on est des usagers très fréquents de tous ces commerces. Et là, pour vous donner des exemples de ce qu'on a fait depuis qu'on est élu, on a mis en place des bons d'achat pour favoriser les commerces qui ont fermé. donc qui n'étaient pas autorisés au supermarché ou voilà, ceux qui avaient pu rester ouverts, c'est ceux qui ont fermé qui ont bénéficié de ces bons d'achat. Et on a eu un très très bon retour des commerçants là-dessus, et on les a aidés lors du deuxième confinement à mettre en place avec les étudiants du lycée en BTS une plateforme de commerce Call and Collect ou Click and Collect, on a fait les deux, avec comme but de favoriser effectivement le cœur de ville et de les faire prédominer et montrer aux gens qu'il y avait autre chose qu'Amazon qui existait et qu'on peut travailler avec des commerces de cœur de ville en Click and Collect ou en Call and Collect, quoi.
Alors évidemment, on n'a pas parlé que d'économie avec Claire Masson, surtout dans une période aussi incertaine que celle de la pandémie de Covid-19. Non, l'une des questions qu'il me semblait importante d'aborder, c'était la précarité à Auray. Si ces dernières années, la ville gagne en attractivité et en population, elle enregistre aussi des taux de pauvreté et de chômage supérieurs à la moyenne nationale. 17% contre 14% et 18% contre 10% respectivement en 2016. Pour discuter de l'action sociale de la nouvelle municipalité, je suis allée rencontrer des membres de l'association Stéphane Bouillon, qui porte le nom d'un jeune sans domicile fixe mort dans la rue à Auray et qui vient en aide aux plus précaires. Patrick Le Galliot, son président.
Alors la municipalité ici à Auray, elle a toujours une couleur politique depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai que les relations ne sont pas forcément simples parce que les personnes de la rue, a priori, ils dérangent. Il gêne, et donc les élus préféreraient qu'il soit ailleurs. Donc on n'a pas forcément des relations de confiance ou de, je dirais, de collaboration. On est parfois en conflit avec eux.
Et du coup, depuis un an, ou enfin un petit peu moins d'un an, puisque Mme Masson a été élue au deuxième tour dans l'été 2020, est-ce que les relations de votre association avec la municipalité ont changé ?
Alors, a priori, ils ont complètement évolué dans le sens qu'on s'est retrouvé face à des gens qui étaient, ou qui sont toujours d'ailleurs, à l'écoute justement des personnes qui sont les plus en difficulté. Un petit exemple tout concret. Jusqu'à présent, dans le local d'accueil des personnes de la rue, ici à Auray, les personnes avec chiens n'étaient pas admises. Ce qui est le cas dans pratiquement tout le Morbihan. Et depuis cette nouvelle municipalité, l'accueil avec chien est possible, ce qui est une expérience nouvelle. Et on sait bien que pour les personnes de la rue, c'est un point très important. Donc cette nouvelle attitude est, à mon sens, positive.
Parti écologiste en France et
Vanessa Géraud.
Depuis le début, depuis sa création en 1984, encore une fois, axé sur le lien entre les inégalités sociales et les inégalités environnementales. C'est un parti qui est à gauche, dont les membres ont des trajectoires qui sont inscrites dans des luttes à gauche. Donc la manière dont les maires gouvernent, les élus gouvernent depuis ces nouvelles municipales, j'ai envie de vous dire que c'est la manière dont ils l'ont toujours fait, parce qu'en fait ils sont présents dans les collectivités locales depuis la fin des années 80, les écologistes. Là, dans l'extrait que vous m'avez fait entendre, on a cette parole sur les personnes sans abri. Je crois que ce qu'on entend là aussi, c'est non seulement une préoccupation constante pour les questions sociales, mais aussi une manière de les traiter un peu différemment, de manière de faire des expérimentations. Les écologistes, ils ont cet avantage, c'est qu'ils n'ont jamais été vraiment aux manettes. Ils sont souvent minoritaires dans des majorités plurielles. C'est longtemps, c'est ça leur statut principal. Là, maintenant, quand on est le maire, on a le pouvoir de faire des expérimentations comme celle-ci, de recevoir des personnes sans abri avec leurs animaux de compagnie. Et il faut voir ce que ça va donner. Voilà, mais expérimenter, innover, les politiques publiques innovantes, c'est un peu ça, la marque de fabrique des écologistes. Et jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas trop vu, parce que quand ils arrivent avec des idées novatrices dans des majorités plurielles, quand ils sont minoritaires dans ces majorités, il y a très peu de projets qui passent. Donc on n'avait pas vu cet aspect-là. Voilà, l'idée, c'est de se donner les moyens de faire des expérimentations, de penser un peu autrement qu'on les pensait habituellement les politiques publiques. Et je crois que c'est maintenant que le grand public va voir un peu, si j'ose dire, de quoi les écologistes sont capables.
À Auray, la mairie a déjà un peu avancé dans une voie plus sociale, plus à l'écoute des besoins des personnes les plus démunies. Quand j'en ai parlé avec Patrick Le Galliot, je me suis demandé comment ces personnes voyaient ces changements, si elles les ressentaient même, elles qui restent parfois assez peu longtemps dans un même endroit. Le lendemain de ma rencontre avec le président de l'asso, je suis donc revenue au local pour prendre le café avec d'autres membres de l'association et quelques personnes sans domicile fixe. Là, j'ai discuté avec Boris.
Je suis arrivé au vrai, j'arrive de Lorient, c'est le 115 qui m'a orienté ici. Et après, c'est les gens du 115, l'hébergement qui m'ont dit qu'il y avait une association ici pour venir déjeuner le matin. Par l'association, il n'y a rien. Même les banques, dans la journée, ils mettent des vigiles, les laveries, pareil. Donc c'est la police, ils contrôlent. Ça fait au moins 4 fois que je me fais contrôler par le même mec, il a mon nom, il me demande toujours mon nom. Carte d'identité et tout, quoi. Non, c'est pas facile. Ah non, on n'est pas les bienvenus. On nous dit de nous écarter dans les parcs, éloignés de la ville, quoi, en fait.
Cette distance, ces difficultés qui subsistent, Claire Masson essaie de les réduire, voire de les faire disparaître. Alors, sans lui jeter des fleurs, c'est ce qui ressort de la plupart des échanges que j'ai pu avoir avec les habitants et les habitantes de la commune. Notamment à l'école Diwan Doré, qui appartient au réseau du même nom, composé d'écoles associatives qui permettent aux élèves d'apprendre principalement en breton.
Marilyn Caudal, sa directrice.
Étant donné que c'est vrai que les écoles Diwan ont un statut un peu particulier, on fonctionne de façon laïque, donc gratuite, mais pour le reste, les mairies, souvent, on est considérés comme des écoles privées, donc on devrait pouvoir se débrouiller tout seul. Donc voilà, c'est un peu au bon vouloir des mairies. Il y a eu des moments où ça a été assez bien, facile. Les dernières années, là, ça a été particulièrement difficile. Et là, c'est vrai qu'avec les nouvelles élections et la nouvelle mairesse, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, même si les mairies, les municipalités avant avaient signé déjà la charte oui à la langue bretonne, ils n'avaient pas mis, très peu en application. Donc en fait, déjà, la mairie ici, maintenant, s'est engagée à déjà appliquer ce qu'ils avaient signé précédemment. Et en plus, ils veulent aller beaucoup plus loin. Donc ça nous convient très bien.
Et vous avez remarqué des évolutions concrètement depuis ? Parce que vous avez peut-être meilleur contact, plus de relations, même vous parlez peut-être plus souvent ?
C'est vrai qu'on a plus de relations. La première chose qui m'a beaucoup étonnée, c'était avant la rentrée de septembre, où une personne des services techniques est venue nous demander si on avait besoin de quelque chose. Chose qui ne s'est jamais passée auparavant. On devait toujours courir, en fait, pour avoir des réponses, pour avoir de l'aide. Et c'est vrai que depuis que Madame Masson est à la mairie, en fait, on envoie un mail, ils nous répondent gentiment, ils interviennent très rapidement. Et c'est vraiment un grand soulagement pour nous. Je pense pas que c'est parce qu'on est une école Diwan, en fait, ou que c'est le breton. Je pense que c'est leur façon de faire au niveau des écoles. Et ils comprennent bien que c'est très important, en fait, les écoles, les enfants. Voilà, c'est pas... ça fait pas chef d'entreprise. Avant, on avait un peu ça, l'impression où c'était, on voyait voilà, le côté routier, il fallait tout faire beau, au rais et tout ça. Et là, c'est beaucoup plus social. Et c'est clairement dit et clairement fait.
Oui, on y tient beaucoup, en fait. D'ailleurs,
bien, Claire Masson.
Tanguy Cheval, qui est de l'UDB sur la liste.
Et l'UDB, c'est l'Union démocratique bretonne.
Et très actif, et on a des personnes qui sont très actives autour de la culture et de la langue bretonne dans la liste. Mais c'est vrai qu'on essaye aussi de développer, même en dehors de Diwan, par exemple, on souhaite mettre en place une classe mini-bagade avec la Kevren Alré. Et donc c'est vrai qu'on souhaite aussi développer dans différents quartiers la culture bretonne. Il y a quand même une rupture sociale entre les familles qui ont la culture et la capacité d'aller à l'école de musique, d'aller au concert, et celles qui ne le font pas. Et on souhaite que tous les enfants aient cet accès à la musique et à la culture, au concert, et qu'on les emmène vers plus de culture. Je crois que le patrimoine breton a toujours été un élément partagé par tous les mandats précédents. Par contre, sur les autres cultures, j'en suis moins sûre, et en particulier le fait de se tourner vers les quartiers, de proposer un centre social, c'est des choses qui ont été refusées par la municipalité précédente, puisque la CAF et l'État avaient demandé, avaient proposé d'aider à la mise en place d'un centre social, et ça avait été refusé. Donc nous, on est quand même vraiment en rupture, puisque c'est une des premières choses qu'on met en place, c'est l'étude sur le centre social et la concertation et le bilan avec les associations pour voir comment monter un partenariat interassociatif et avec la municipalité là-dessus.
Les défis sont nombreux. Et comme on a pu l'entendre, les Verts doivent encore convaincre certains et certaines habitants d'Auray que gouverner, en concertant davantage, permettra d'arriver à de réels changements au sein de la ville sans porter préjudice à quelques-uns ou quelques-unes d'entre eux. Et puis l'envie de lancer des projets et d'enfin mettre à plat les serpents de mer hérités des précédentes mandatures est parfois freinée par les nouvelles problématiques qui émergent dans le sillage de la pandémie de Covid-19. Par exemple, la hausse des prix de l'immobilier. Si la tendance date d'avant le début de l'épidémie, elle s'est accélérée avec le premier confinement, lorsque les gens se sont rués vers la côte atlantique. À la recherche de grand air, sans doute, et d'un environnement plus vert.
Merci à Marin Lefebvre pour ces deux épisodes réalisés par Alexandre Ferreira pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
I chose Columbus State because I needed help with transitioning from the military world. My instructors gave me hands-on learning experiences and helped me find a trade that I love. Now, I've found my niche in an industry that's shaping the skyline of Columbus.